Je voulais absolument revenir sur cette défaite de l'Impact. Trop courte conversation de Jérémy Filosa avec Mario Landlois un peu plus tôt. Philo est avec nous. Salut Philo!
Salut!
Bon, défaite d'un zéro. Philo, écoute, on s'est obstiné vendredi pendant quasiment 60 minutes à savoir est-ce que l'Impact va revenir à Montréal. Tout le monde disait oui, puis papam, surprise! Ouais. L'Impact décide de rester là-bas. Comment tu vois la situation? J'ai entendu l'explication et peut-être à en faire un résumé rapide, là. Ouais. Mais comment tu vois cette situation-là avec les joueurs de l'Impact?
Ben, écoute, je pense que si tu avais posé la question même au pilote de l'avion tout de suite après le match, je t'aurais dit ben oui, on rentre à Montréal, je les attends, ils s'en viennent puis tout ça. Je trouve ça particulier. J'ai honnêtement, tu sais, je pense que c'est le genre d'affaires que tu es supposé planifier d'avance. On part ou on part pas. Parce que là, de voir que le match se termine, puis c'est là qu'il y a un meeting d'équipe, puis c'est là qu'on décide si on retourne à Montréal, alors qu'il y a probablement des conjointes à Montréal qui attendent leur copain ou leur mari dans les prochaines heures, probablement pour les libérer un peu, pour qu'elles puissent aussi sortir de la maison ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment particulier. Maintenant, écoute, on comprend que c'est la direction de l'équipe qui a pris cette décision-là, mais ce qui est particulier, c'est que Thierry Henry, quand il vient nous voir au podium tout de suite après la fin du match, il nous dit... Ben oui, on s'en va à Montréal, on retourne, ça va faire du bien aux joueurs, les gars ont besoin de ça mentalement, tatati, tatata. Et là, on apprend, quelques heures plus tard seulement, que l'avion de Lizzie, qui est au New Jersey pour amener l'Impact, ben retourne sans l'équipe. Alors, c'est vraiment, vraiment particulier. Et là, ben la question que tout le monde se pose, qui a callé cette shot-là? Est-ce que c'est Olivier Renard qui était sur place? Est-ce que c'est Kevin Gilmore, dont on n'a pas vraiment entendu beaucoup parler récemment? Est-ce que c'est Joey Saputo? Est-ce que Joey Saputo est sorti, renaît de ses cendres, comme on dit, et est venu, disons, appliquer un peu sa potion magique comme il faisait dans le temps? Okay. À l'époque, on le sait pas. Mais clairement, c'est quelqu'un au-dessus de la tête de Thierry Henry qui a pris cette décision-là.
OK. Est-ce que je peux amener une autre option, peut-être?
Oui.
Je me dis, si jamais ça vient de Olivier Renard, ça vient de Joey Saputo, ça vient de Kevin Gilmore,
oui,
c'est sûr que ça sera une semaine d'enfer et l'Impact va, va trébucher dans le dernier match. Et tout à coup que ça venait des joueurs. Et tout à coup que les joueurs décident de, un, s'entraîner, ce qu'ils sont plus capables de faire parce qu'ils sont toujours de retour à Montréal puis retourner à New York, de prendre le temps de se préparer pour le match le plus important de la saison. Et tout à coup que ça venait des joueurs.
Écoute, moi, j'ai fait mon enquête là, aujourd'hui, c'est sûr. J'ai appelé bien des gens et ma source la mieux connectée me dit décision collective du staff. Donc, ça veut dire quoi ça, le staff?
Le staff, c'est pas les joueurs, ça.
Non, c'est ça. Exactement. T'sais, moi, je pense pas que... Il y a peut-être des joueurs pour qui ça causait pas problème. Tu sais, il y a des gars, Jérémy, qui ont pas de famille ici, sont seuls, leur famille est en Europe ou en Afrique ou peu importe d'où ils viennent. Et pour eux, ben être dans un condo à Montréal ou être dans une chambre d'hôtel au New Jersey, il y a pas vraiment de différence. Donc, il y en a peut-être pour qui c'était pas vraiment un problème, mais il y en a assurément certains dont les conjointes attendaient ici, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et qui, eux, auraient préféré revenir à Montréal parce qu'on planifiait seulement revenir pour 2 jours, un 48 heures, un flash à Montréal, retourner ensuite au New Jersey, probablement pour recommencer à s'entraîner mercredi. Mais là, la décision a été prise et moi, ce qu'on m'indique, c'est que c'est pas une décision des joueurs.
Bon, écoute, ça se peut bien que ce soit le gars qui mette la main dans sa poche, qui a dit « Hey, c'est pas vrai qu'il m'a payé pour 2 vols nullisés » pour une première demi où les gars n'étaient pas là.
Ouais.
Et moi, je dirais, j'aurais payé un vol nullisé juste pour Boyan, qui a été exceptionnel dans ce match-là. Ouais. Honnêtement, ça fait du bien de le voir de cette façon-là. Mais sinon, la première demi, les gars étaient absents. Là.
Écoute, 4 tirs à 2 après 45 minutes de jeu. L'Impact n'a pas mal joué, mais ça a été une première demi un peu endormante de part et d'autre. Ce qui est plate, c'est qu'Orlando, ils ont 2 tirs en première demi, 1 cadré, il est dans le fond du filet. Un genre de but qui ressemble beaucoup à ce qu'on a donné contre Nashville, sauf que celui-là, il n'était pas sur coup franc, mais tu sais, ça tranche en plein cœur de ta défensive, dans l'axe, dans ton propre territoire. Normalement, là, quand tu joues un 5-3-2, tu sais, t'as 3 gars, t'as 3 défenseurs centraux, puis t'as 3 milieux en avant d'eux autres, c'est pas supposé passer par le centre, tu sais. Quand ça passe par les ailes, tu dis « OK, c'est beau », mais quand ça passe en plein centre de main, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et ensuite de ça, ben l'Impact en deuxième demi a ouvert la machine. Je crois que les tirs au filet, ça s'est terminé 14-6 à l'avantage de l'Impact, mais pas capable de la mettre dans le fond du filet, pas capable d'aller chercher ne serait-ce qu'un seul point dans ce match-là. Et pour moi, ce qui fait défaut, c'est les latéraux. Malheureusement, tu sais, on voit Zach Broguillard, là, on le sait, là, il n'est pas à 100%. Il y a des matchs qui n'est même pas habillé. Donc, Zach Broguillard n'est pas le joueur dominant qu'il était en début de saison où il pénétrait littéralement dans la surface pour créer des chances de marquer. Et de l'autre côté, ben, on a un gars qui est un peu limité, Corrales. Donc, ça a fait beaucoup de centres qui ont été bloqués.
Et Raitala a eu le ballon à quelques prises également, puis c'est pas guère mieux, là.
Non, exactement. Ben, Raitala, tu sais, Vandril Lefebvre le dit souvent, c'est pas un gars qui va être capable d'être un bon latéral non plus. Là, hier, il jouait quand même dans l'axe. Il jouait pas comme latéral. Il jouait comme défenseur central aux côtés de Binks et de Camacho. Mais ouais, c'est ça. T'as raison de le mentionner. Puis quand on envoyait des centres dans la surface, c'était pas toujours des centres de qualité. C'était dans les pieds d'un adversaire. C'était sur la tête d'un adversaire. Puis il y avait quand même des chandails bleus et noirs dans la surface des réparations, mais on trouvait pas le moyen de leur donner de beaux ballons. Et c'est ça qui a fait en sorte, malheureusement, qu'on sort de là avec zéro point. Mais là, je pense que...
Encore une fois, tout le monde a perdu.
C'est ça.
C'est incroyable.
Hey, tu ramasses 7 points, je crois, sur une possibilité de 36. 7 points sur 36, à moins de me tromper, là. Puis tu bouges pas du 9e rang. Il y a personne qui te rattrape. Ça joue vraiment à qui perd gagne, là, cette année dans cette division-là.
Philo, donne-nous le scénario pour dimanche. Une victoire, l'Impact passe en match. C'est un match suicide, c'est ça? Position de 7 à 10. Il y a match suicide, c'est ça?
Exactement. Donc, si l'Impact gagne, ils sont qualifiés, ils vont jouer le match suicide. Si l'Impact fait match nul, ils vont avoir besoin d'une prière parce qu'il faut que d'autres résultats tombent en leur faveur. Mais croyez-le ou non, l'Impact peut perdre et quand même se qualifier. Dépendance de ce qui va arriver dans les autres résultats. Si tout le monde perd, c'est pas impossible que l'Impact se qualifie. Maintenant, il va falloir surveiller en milieu de semaine Chicago qui joue contre Minnesota parce que Chicago a un match en main. On va regarder ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, il y a encore un scénario possible où l'Impact perd dimanche à DC et se qualifie quand même pour les matchs éliminatoires. C'est assez incroyable. Ouais,
c'est
quand
incroyable.
On pense.
Mais si jamais l'Impact n'arrive pas à passer ce match suicide, il y aura quand même la Ligue des champions de la CONCACAF. Ça va être au mois de décembre, Philo.
Ben, oui, exactement. Donc, c'était l'information de notre collègue Tony Marinaro qui a été confirmée par la CONCACAF aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, les matchs vont se disputer sur 3 jours. Donc, c'est le tournoi printanier là, de la CONCACAF qui va se compléter juste avant Noël. Donc, quelques jours après la finale de la MLS Cup qui est prévue le 12 décembre. Donc, le 15 décembre, on va commencer la Ligue des champions. On va jouer match de quart de finale. Donc, pour l'Impact de Montréal, souvenez-vous, ça avait perdu le premier match face aux champions du Honduras, le CD Olympia, 2-1 au Stade Olympique. Donc, on va jouer le deuxième match. Et ben le Honduras, le CD Olympia, va jouer ce match-là comme si c'était un match local pour eux. Donc, l'Impact va devoir battre CD Olympia par 2 buts ou plus, ou par 1 but, mais dans un match à haut pointage. Ensuite de ça, le 19 décembre, on va jouer les demi-finales. Ça va se jouer sur un match seulement. Et le 22 décembre, on va jouer la finale, encore une fois, sur un match seulement. 3 jours avant Noël. Ça veut dire que les joueurs, non seulement ils risquent d'y avoir un autre mini camp d'entraînement, là, parce que si l'Impact dimanche est éliminé, il y aura 5 semaines d'écart avant le premier match de la Ligue des champions. Et quand ils vont revenir, ben, il va falloir qu'ils se mettent en quarantaine pendant 2 semaines. Donc, je ne sais pas si on va avoir le droit de voir nos familles à Noël, mais c'est sûr qu'eux autres, ils ne pourront pas. Donc,
c'est incroyable.
Ah, c'est incroyable. C'est
broche à foin. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
Ben, écoute, ça fait des mois qu'on le dit que ça n'a pas de maudit bon sens. Et en plus, les gars, en plus de subir, je pense qu'ils vont se retrouver dans un sixième ou septième fois en quarantaine, alors qu'ils sont testés à tous les 2 jours. Je veux dire, ça tient pas debout. C'est complètement ridicule. Et là, c'est pour ça que là, honnêtement, Jérémy, on se croise les doigts pour que dimanche, l'Impact puisse se qualifier, pour qu'on puisse au moins étirer et se rendre le plus loin possible avec les matchs éliminatoires MLS pour se rapprocher un peu du début du tournoi de la Ligue des champions pour pas que les gars aient à retomber encore une fois dans une période d'inactivité.
Ça ferait quoi, un quatrième camp d'entraînement cette année?
Exact. Exactement. Hey, un quatrième camp d'entraînement. Wow. Puis là, c'est à décider. Qu'est-ce que tu fais si t'es l'Impact? Mettons que tu es éliminé dimanche. Là, tu fais quoi? Tu rentres ça à Montréal? 2 semaines en quarantaine? Ça, les gars courent pas. Là, tu recommences à t'entraîner, mais où? À Montréal? On peut-tu? Si on va, mettons, à Marie-Victorin, on a-tu le droit? Je sais pas. On repart-tu aux États-Unis? On sait pas. Et soit dit en passant, la Ligue des champions, ça va se jouer dans une bulle. On ne sait pas où est-ce que cette bulle-là va être installée, soit en Floride, soit au Texas, soit en Californie. Et ce sera des matchs à huis clos. Voilà.
Aïe, 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 quelle aventure pour cette période de pandémie, pour la MLS, mais pour surtout l'Impact, Toronto et Vancouver qui vivent des moments extrêmement difficiles pour ces formations-là, aller jouer aux États-Unis. Bon, ben Philo, écoute, avant de regarder le mois de décembre, là, on va regarder le prochain match, puis on va se croiser les doigts pour une bonne performance, c'est la priorité numéro un. C'est
tout ce qu'il y a à faire. Ça va être tough. Écoute, DC United, là, hier, là, ils se sont battus comme des chiens contre la Nouvelle-Angleterre. Ça s'est terminé 4-3, mais ça a été un match âprement disputé. J'ai de la misère à penser que l'Impact va être capable de battre une équipe qui vient de marquer 3 buts quand même contre la Nouvelle-Angleterre. C'est pas une mauvaise équipe défensive non plus.
Oh, il y avait pris les devants 2-0 dans le match. Ils se sont fait remonter.
Exact. Ils se sont fait remonter puis ça a été un match de fou. Là, tu t'en vas sur la route à DC contre une équipe qui a connu une année de misère, mais qui, au bon moment, commence à connaître justement des meilleurs moments. Donc, ça va beaucoup mieux pour DC United. Et l'Impact, écoute, ils sont pas capables de battre personne au moment où on se parle.
Ouais, mais à chaque fois, Philo, à chaque fois que tu as dit l'Impact pour se faire battre, habituellement, ils trouvent le moyen d'offrir une bonne performance. Mais ça n'a pas été le cas lors du dernier match face à Orlando avec une défaite de 1-0. Ouais. Jérémy, je te remercie énormément, puis on aura le plaisir de se reparler vendredi soir prochain. On aura encore un bon 60 minutes, 100% soccer de 23h à minuit. Merci beaucoup, Philo.
Salut, ça me fait plaisir.
Merci, au revoir. Jérémy Filosa qui nous parlait de cette défaite de l'Impact 1-0 face à Orlando. Et quelle situation, c'est complètement hallucinant ce qui se passe pour l'Impact. Supposé de revenir à Montréal, ne revient pas, reste là-bas. Décision du staff que Philo dit, je ne suis pas convaincu que ça va faire plaisir aux joueurs, mais à un moment donné, tu es là pour performer et on espère une bonne performance dans le dernier duel de la saison.